Il n'y a pas de générique et c'est normal. Ce n'est pas cette copie qui est tronquée. C'est comme ça, effectivement. C'est Jean Genet qui a pensé le film, qui l'a réalisé, qui l'a monté aussi. Et c'est vrai qu'il n'y a ni acteur, ni équipe technique. Je pense que ça rentre dans le projet. C'est évidemment un film très romantique, ce qui est surprenant peut-être, mais si vous y réfléchissez, on ne vous dit pas que c'est Jean Genet, c'est un film romantique, avec l'idée de le grand thème de l'amour empêché, qui est retravaillé avec les motifs floraux que vous connaissez très très bien dans la littérature de Jean Genet. C'est vrai que c'est surprenant. Peut-être est-ce pour ça aussi que Jean Genet ne tenait pas, je ne sais pas, à ce que ce film soit montré. Mais ce qu'il y a qui est très impressionnant, je trouve, dans le film, et puis après, vous savez, ça c'est la technique de débat, je parle 5 minutes pour que vous recouvriez vos esprits, puis après je vous passe la parole, c'est la façon dont les espaces sont tressés entre le réel et l'imaginaire. Et c'est absolument admirable parce que on dit que Jean Genet n'a pas écrit de scénario, effectivement, qu'il prenait beaucoup de notes pendant le tournage et la production du film, mais il n'y a pas au départ quelque chose qui est de l'ordre d'un scénario construit comme ce que l'on voit là. Et il y a au moins 3 espaces. Il y a l'espace de ces 2 hommes qui s'aiment sans se voir et qui sont séparés irrémédiablement par ce mur dont le côté physique est extrêmement sensuel, présent, et où l'idée de génie de la paille qui passe fait sentir l'épaisseur du mur. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de sensation physique pour le spectateur qui ressent ce que c'est que le mur d'une prison. Il y a cet espace-là qui les unit. Il y a l'espace du gardien, de sa pulsion scopique et des tableaux qu'il voit parce qu'il a envie de voir cela comme ça. C'est-à-dire que ce qui est filmé d'érotique dans les moments où ils sont donnés à voir par le gardien, c'est esthétiquement et je dirais sensuellement et sur le plan érotique totalement différent de ce que vivent les 2 hommes dans leur cellule. Il y a le 3e espace extraordinaire qui est cet espace bucolique dans lequel l'homme le plus âgé, celui qui est joué par le coiffeur macro de Montmartre, qui est un Tunisien, s'échappe. Et je trouve qu'il y a, et je terminerai ce petit moment juste de démarrage comme cela, il y a là un raccord qui, enfin je veux dire un raccord, c'est lorsque 2 plans sont d'une manière ou d'une autre, soit par le sens, soit par le mouvement, soit par le son, soit par le thème, sont rapprochés l'un de l'autre. Il y a un raccord qui est absolument incroyable, incroyable. Comment est-ce qu'il a osé faire un truc pareil? C'est lorsque on est avec le gardien qui est rentré et qui va faire une séquence de viol, en fait, sur le prisonnier le plus âgé, qu'on commence à rentrer dans l'imaginaire du prisonnier le plus âgé par rapport au bucolique, à la sortie en forêt en extérieur, mais c'est surtout ce qui se passe avec le prisonnier plus jeune qui se lève, qui est dans sa cellule, il se lève, il attrape son blouson et il met son blouson. Ensuite, plan sur le visage du prisonnier plus âgé et on comprend qu'on rentre dans son imaginaire et plan d'après, on est dans la campagne avec ces 2 hommes qui portent effectivement des blousons. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de jonction, de suture qui s'est faite entre la réalité de la prison et la force de l'imaginaire amoureux de cet homme qui a fait quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'il résiste au viol, il résiste à tout ce qui lui est imposé par le gardien, en étant dans un autre imaginaire, un autre système. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on nous fait rentrer, nous, spectateurs, dans ce système-là. Et qu'il y a des variations esthétiques, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais dans ces 3 espaces-là, qui sont très très fortes. L'imaginaire très caravagesque, presque, je dirais, presque statuaire mussolinienne ou nazie, si on veut, qui est l'imaginaire du gardien, s'oppose complètement à la traversée des ronces, de la nature, d'un rapport extrêmement heureux et amoureux, traversé par une mélancolie quand même, parce que lorsque l'homme plus âgé prend l'amant sur ses épaules, il y a quelque chose quand même d'une figuration de la mort qui arrive là. Petite parenthèse, c'est probablement quelque chose que Jean Genet a pris, et c'est ça l'art, c'est se servir des films des autres. Probablement un film de Kenneth Anger qui s'appelle Fireworks, et que Genet avait vu 3 ans avant de faire ce film-là, ce motif de l'amant qui prend l'homme qu'il aime sur ses épaules et qui le transporte. Donc, on joue comme ça sensuellement en passant de l'un à l'autre, et je trouve que c'est en voyant et en revoyant le film qu'on voit où on est. Mais d'abord, à première vision, il me semble qu'il y a d'abord un choc. Mais je ne sais pas, j'ai beaucoup parlé. Ça s'appelle un débat, c'est à vous. Tout à fait possible, mais je ne le sais pas. Tout à fait possible, oui. Absolument. Oui, sur le, c'est-à-dire ce côté romantique, effectivement. Je ne le sais pas, mais c'est, oui, on peut penser, quand on connaît Peter Ibbotson, effectivement, à cette contamination entre l'imaginaire et le réel, oui, tout à fait. Oui. Oui, sur le crime. Au musée d'Orsay, sur la peine de mort, oui. Mais je vous suis totalement sur l'idée de l'inversion, parce que moi, je n'avais pas pensé à la peinture, mais j'avais pensé à la littérature, pardon, qui est par exemple le grand thème de Énée portant son père pour fuir Troie. C'est-à-dire, ça, c'est plus classique, c'est-à-dire le jeune qui porte le père, l'aîné, pour le sauver. Et là, on a l'inverse. Oui, tout à fait. Oui, mais vous avez raison. Il y a aussi, on pense à Murillo, effectivement, lorsque on a les gros plans sur les pieds. Mais on reparlera de cette histoire de gros plans, je pense, après. Oui. Tout à fait, tout à fait, absolument. Le chef opérateur est quelqu'un qui a commencé sa carrière en étant assistant sur La Bête humaine de Renoir. Donc quelqu'un qui quand même a fait... Bon, ensuite, il a fait beaucoup de films d'Autant Lara, avant qu'Autant Lara ne devienne... Bon, bah, c'est un autre sujet, mais c'est quelqu'un qui a une belle image, quoi. Tout à fait, bien sûr. Alors là, est-ce que c'est... La broussaille qui, par hasard, est tombée comme ça et Nato a su le voir. Non, on ne sait pas. Est-ce que c'est organisé? Possible. Les deux sont possibles. Ce qui est sûr, c'est que Genet disait « Je veux me servir de tous les accidents du film ». Il est parti avec cette idée-là, qui est une idée extrêmement moderne. Ça, c'est l'idée de la nouvelle vague. Ça arrive 9 ans après, quoi. Ça arrive en 59, quand vous avez simultanément Pickpocket, À bout de souffle qui arrive, et avec des cinéastes qui disent... On ne veut plus tourner en studio, on veut tourner en extérieur et on veut que le réel puisse intervenir dans notre fiction. D'abord parce qu'ils n'avaient pas un rond et que c'est une façon de faire avec l'absence d'argent, mais aussi parce que intellectuellement, ils avaient envie esthétiquement de justement accepter l'aléa. Et je n'ai pas terre, vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est incroyable, quoi, en 1950. Mais c'est aussi la force, je crois, on a parlé de Pasolini tout à l'heure, c'est aussi la force des artistes qui viennent d'un autre champ artistique. Pasolini vient de la poésie, comme vous savez. Il arrive dans le cinéma. Ce n'est pas son problème ce qui se fait. Ce qui l'intéresse, c'est de traduire ce que lui a envie de montrer, que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas. Et Genet est dans le même cas de figure. C'est pour ça que c'est aussi inventif. Il n'est pas pris dans une grammaire, il n'est pas pris dans une, quelque chose qui serait un héritage, alors que le cinéma français de cette époque-là, des années 50, c'est terrible, c'est terrible. C'est ce que Truffaut a ensuite appelé la nouvelle qualité française, c'est-à-dire un truc complètement guindé dans lequel les personnages masculins ont un minimum de 55-60 ans et séduisent des jeunes femmes frétillantes de 35 ans. Ils sont, c'est un cinéma macho, c'est un cinéma... C'est terrible, le cinéma des... Il y aurait des choses à dire, mais qui est un autre sujet. Oui. Alors, moi, j'ai vu des rapports avec Souchia, c'est-à-dire que je sais qu'il avait vu des choses, donc c'est très possible. C'est très possible. Là où je vois un rapport avec le néoréalisme, c'est-à-dire c'est le fait de sortir, c'est d'aller dans la nature. Le néoréalisme italien est allé sur les ruines de la guerre, d'accord, mais il est sorti d'abord pour des raisons économiques, on le sait, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de studio, donc si on voulait tourner, on tournait dans la rue. Mais ça a été de nécessité vertu, et là, moi, je pense que c'est retransformé, c'est-à-dire qu'il sort parce que la beauté de la nature va permettre, avec l'arme de ces hommes-là, contre le fait d'être enfermé. Donc, probablement, mais on n'est pas dans un descriptif qui serait misérabiliste. Il me semble à aucun moment. C'est-à-dire qu'on a la condition des prisonniers, c'est donné, mais on n'est pas dans ce qui a été les excès du néoréalisme. Par Rossellini, bien sûr, hein, nous sommes d'accord. Bien sûr, tout à fait. Et en ce sens-là, on sait très bien que les néoréalistes ont été les pères de la nouvelle vague, ça c'est certain. Et les gens comme Godard s'en sont réclamés sans hésiter, bien sûr. Lui. Moi, ce que j'ai lu, c'est lui. Non, non, ils tournaient en 35. Ils avaient commencé à tourner en 16 et ils n'ont pas été contents de la qualité. Donc, ils ont abandonné le 16 et ils sont passés au 35. Oui. Mais une petite main, c'est une chose, et quelqu'un qui décide de la coupe, c'est autre chose. Il y avait probablement une petite main, oui. Mais c'est pas ça le montant. Enfin, vous le savez bien. Même si vous prétendez que vous ne montez pas ce que vous faites. Ce qui, pour moi, reste à démontrer, mais bon. Très sage. Probablement, et je pense que Genet a tellement été imbibé du cinéma que dans sa technique romanesque, consciemment ou pas, j'en sais rien, en tout cas, comment ? C'est du montage, c'est du collage, c'est du montage, absolument, tout à fait. Mais dans le film, là, il y a un troisième espace. C'est le plus subtil, je trouve, c'est le plus compliqué. C'est qu'en fait, les fantasmes du gardien sont des fantasmes qui retraduisent l'idéologie dominante sur la pornographie. C'est-à-dire qu'il a des images qui ne sont pas aussi fraîches, aussi Hitchcock disait, quand vous faites un film, make it fresh and new. Que ce soit nouveau, quoi. Et la force de ce qui se passe dans la représentation de la sexualité chez ces deux hommes versus ce qui se passe dans l'imaginaire du gardien qui est complètement figé. Aidez-moi, quel est le nom de ce sculpteur nazi? Voilà, merci. Arnaud Brecker. Il y a un côté Arnaud Brecker éclairé par Caravage. Excusez-moi, c'est un peu rapide, mais il y a de ça quand même. Et ça, c'est quelque chose qui appartient au gardien. Et les espaces sont très séparés. Et d'une certaine manière, l'audace très grande du montage, c'est pour ça que moi je crois vraiment que, même s'il n'a pas techniquement fait les coupes, c'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit, il met son blouson, et là, on met un plan sur le visage du Tunisien, et hop, avec le blouson, on le retrouve dans la nature. C'est aussi fort comme raccord dans l'histoire du cinéma que ce fameux raccord que vous connaissez tous par cœur, qui est au début de 2001, lorsque le singe tape sur l'os, il a enfin trouvé ce que c'était qu'un outil, il a enfin trouvé ce que c'était qu'une arme et la violence, bon, ça c'est le thème de Kubrick, l'os vole sous l'impulsion du coup qu'a donné le singe, virevolte, et le plan d'après, c'est un vaisseau spatial qui a la même forme que l'os, 25 000 ans après, et qui effectivement va tourner autour de la Terre avec Strauss qui arrive là-dessus. C'est-à-dire c'est aussi osé comme type de raccord, quoi. Et c'est pas, je ne parle pas de technique là, je parle de pensée esthétique. Et là, franchement, c'est peut-être là qu'effectivement le fait de ne pas être spécialiste l'a libéré. Un monteur lui aurait dit ou non, ça on ne fait pas parce que c'est dangereux, parce que. Oui, bien sûr. Tout à fait, absolument. Cocteau est un immense cinéaste et à mon avis peut-être un plus grand cinéaste que dramaturge, mais bon, ça n'engage que moi. Et il a inventé beaucoup de choses, mais qui n'ont pas autant d'audace que ce qu'a fait Jean Genet. Et d'une certaine manière, effectivement, un, ils se connaissaient, ce projet, je sais que Cocteau était au courant du projet, hein, et il avait fait ses films avant, donc ça a été... Je veux dire, Jean Genet les avait vus. Il y a quelque chose de l'imaginaire qui se retrouve, hein, dans la représentation homosexuelle, mais il y a moins de force, me semble-t-il, chez Cocteau. Mais une proximité évidente, évidente. Oser à cette époque-là, entre 45 et 50, faire ces films-là en France, même s'ils avaient du mal à être distribués, c'était quand même... une espèce de liberté d'esprit incroyable, quoi. Vu ce qu'était le cinéma à cette époque-là, en France. Oui. Sauf que là, Genet a osé un truc, mais je ne comprends pas comment il a osé enfin, moi, je trouve ça pas très utile, mais il a osé quelque chose, c'est que c'est six fois, à mon souvenir, qu'on voit le... Oui, je crois que c'est six fois. À la cinquième fois qu'on voit, effectivement, l'œil du gardien, à la cinquième fois, il la monte à l'envers. C'est-à-dire que l'image est inversée. J'ai beau le regarder à chaque fois, je comprends pas à quoi ça sert, mais bon, c'est sûr, c'est là. C'est peut-être moi qui comprends pas. Alors, il y a un texte de Serge Danet dans le livre que je vous ai montré qui dit que, et là, c'est pour la première fois, je me dis que je ne suis pas mon grand maître Serge Danet. Il dit que nous sommes dans l'imaginaire du gardien. Je ne le crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'on passe de l'un à l'autre. On n'est pas... mais quand je pense que Danet a dû écrire ça à un moment où le DVD n'était pas disponible, il a dû écrire sur... Vous savez, critique de cinéma, c'est pas la même chose que la littérature. Vous avez toujours le texte pour vous reporter jusqu'à une époque récente, on va dire 20 ans, 25 ans, la critique du cinéma fonctionnait sur des souvenirs d'une ou deux visions et c'est tout. Donc c'est possible que Serge Danet ait vu ça comme ça, mais moi il me semble qu'on n'est pas, on n'est pas dans un cas de figure où le gardien serait en pulsion scopique. Bon, ça c'est clair, c'est évident, mais donc à chaque fois, on aurait une espèce de coupure qui nous dirait à nous, spectateurs, fais attention, tu es en train d'être dans la même pulsion scopique que le gardien. Parce que justement, les univers, les trois univers sont tellement différents que je ne crois pas qu'on nous en fasse adopter un seul. Oui ? Oui. Tout à fait. C'est-à-dire, il n'y a aucune maîtrise. J'ai lu, et je ne sais pas si c'est vrai, je répète, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai lu qu'il avait écrit plus de pages de scénario que de pages de littérature. C'est ça. C'est lui. En tout cas, bon, admettons que ce ne soit pas exactement ça, mais ça veut dire quand même qu'on le sait, il y a beaucoup de scénarios écrits par Genet. Tout à fait. Et il y a une hypothèse qui est faite par Edmund White, justement, qui est de dire qu'il écrivait ses scénarios pour toucher les avances sans aucune intention de filmer, sans aucune intention de faire le film. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai lu aussi. C'est pas invraisemblable. Mais bon, ce film a énormément marqué. Je veux dire que les gens qui ont attendu de le voir pendant longtemps, c'était un mythe. Et ensuite, quand on a commencé à le voir, on en parlait avec Xavier Kawatopor, chacun d'entre nous qui sommes dans le cinéma et qui, la première fois qu'on l'a vu, on se souvient où on l'a vu, quoi. Toi, c'était sur une table de montage à la Cinémathèque de Toulouse. Moi, c'est à la Cinémathèque de Toulouse sur grand écran. Et c'était une merveille, quoi. La Cinémathèque de Toulouse avait une copie. Et c'était, les gens venaient de loin pour la voir. Maintenant, heureusement, avec le DVD, je suis désolée, c'est pas la même image, mais tant pis. Au moins, beaucoup, beaucoup de personnes peuvent le voir, et c'est une très bonne chose. Et alors, évidemment, l'influence de ce film, pour terminer, parce que c'est vrai qu'il est tard, mais l'influence de ce film a été évidemment immense pour ceux qui ont eu la chance de le voir. Alors, c'est-à-dire que vous trouvez aussi bien une influence, d'abord et avant tout, chez Fassbinder. Vous avez vu Querelle de Brest, bon, c'est évident qu'il y a une dette énorme. Mais la chose qui m'intéressait, bon, bien sûr, vous pensez au niveau de la photo, Mapplethorpe, Pierre et Gilles, etc. On connaît tous ça. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai lu, et merci Xavier de m'avoir demandé de faire ça, parce que je n'avais jamais travaillé Genet, j'ai découvert des choses extraordinaires. Quand j'ai lu que, comment s'appelle-t-il ? Todd Haynes, qui est un cinéaste américain qui a repris la question du mélo 20 ans après Douglas Sirk, quand j'ai vu qu'il avait fait effectivement un hommage à ce film-là, je me dis qu'il y a quelque chose dans la question du mélo, au sens, mais comme vous dites, monsieur, c'est un peu tard, parce que ouvrir le débat sur le mélo, c'est un débat extrêmement violent, houleux, et terrible, donc on va juste l'évoquer sans l'ouvrir véritablement, mais disons, l'expression du sentiment, disons, hein, et l'expression outrée du sentiment, c'est quelque chose qui est intéressant quand on la trouve mêlée au réalisme le plus cru. Et ça, du coup, on se dit, c'est pas étonnant qu'en fait Fassbinder se soit intéressé à Genet, en dehors de l'homosexualité. Et donc que Todd Haynes, qui est quelqu'un qui a fait Hours, je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui est une sorte de remake des grands mélodrames de Douglas Sirk, qui est un cinéaste allemand parti aux États-Unis dans ce grand mouvement intellectuel et artistique européen, qui est la fuite des cinéastes de Mitteleuropa dans les années 30 vers Hollywood et la régénérescence d'Hollywood grâce à ses cerveaux et ses esprits et ses sensibilités qui ont fui le nazisme, eh bien, Douglas Sirk qui part alors que c'est quelqu'un qui traduisait du Shakespeare, les sonnets de Shakespeare en Allemagne, il arrive aux États-Unis et il fait des films avec du technicolor, des choses extrêmement apparemment commerciales, mais avec une pensée très forte de la façon dont le mal est infiniment présent dans l'expression du sentiment. Et ça, je pense que je ne sais pas si Sirk avait vu le film de Jeunet, mais je suis assez persuadée que s'il l'avait vu quelque part, ça l'aurait touché. Donc Fassbinder, lui, en revanche, effectivement, qui est le fils spirituel de Douglas Sirk, s'est réclamé effectivement de cette question de montrer la coexistence improbable, et c'est ce que fait ce film pour moi, montrer la coexistence improbable entre la conscience que le mal existe et qu'il pénètre l'art et l'expression du sentiment, voire du romantisme. Et c'est peut-être pour ça que moi j'osais dire tout à l'heure que c'est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas si je vous ai convaincu. Merci.